Studio Tamani, voici les informations en français.
Le travail reprend dès mai dans les trois grands hôpitaux de Bamako. Le mouvement de grève qui était en cours dans ces structures est suspendu. Pendant ce temps, le syndicat des banques annonce un arrêt de travail le 17 avril. Les déplacés de Fatakara n'ont toujours pas regagné leur localité, malgré des opérations de sécurisation permanentes en cours dans la zone. Toutefois, ils continuent de bénéficier de l'assistance humanitaire. Beaucoup de personnes s'interrogent sur la conservation des cheveux des nouveau-nés. La question sera développée dans notre dossier de la semaine. À la présentation, Juliette Koulibaly, Philly Damélé assure la technique. Bonsoir et bienvenue. Les syndicats des trois grands hôpitaux de Bamako ont levé leur mot d'ordre de grève ce jeudi après-midi. Cela fait suite à la libération de leurs collègues arrêtés depuis quelques jours. L'arrêt de ce mouvement est venu à point nommé puisque les hôpitaux avaient décidé depuis hier de ne plus prendre en charge de nouveaux patients. Le syndicat des banques et établissements financiers du Mali annonce un arrêt de travail à partir du 17 avril prochain. Face à ces mouvements, l'Association des consommateurs appelle au respect des droits de tous les consommateurs. Plus de détails avec Ali Cissé.
Le bureau des entrées de l'hôpital du Mali, habituellement bondé, est presque vide ce jeudi. Les caisses, où affluent quotidiennement de nombreuses personnes, sont presque toutes fermées. La même situation prévaut à l'hôpital Gabriel Touré. La raison en est la grève déclenchée par le personnel hospitalier. Seuls quelques accompagnants de malades, l'air inquiet, sont visibles dans les couloirs. Ils espèrent une résolution rapide du problème.
Les patients hospitalisés sont munis d'une fiche qui facilite leur prise en charge.
Toutes les analyses prescrites aux patients déjà admis peuvent être faites.
Qu'on ne prive pas les enfants de leur droit à la vie. Qu'ils essayent de s'entendre par rapport à cette situation.
Un petit garçon victime d'accident de la circulation est venu de la Guinée. Il devait être opéré, mais l'intervention n'a pas pu se faire.
Par ailleurs, le syndicat des banques et établissements financiers du Mali prévoit un arrêt de travail le 17 avril prochain. L'association des consommateurs du Mali considère ce préavis de grève comme un mépris. Son président Abdul Wahab Diakité entend user de tous les moyens pour défendre les droits des consommateurs.
Nous désapprouvons l'arrêt de travail. Cependant, nous condamnons également toute forme d'injustice. Comment un permis d'occuper peut primer sur un titre foncier? L'administration même qui est là a reconnu sa faute. 15 fois les revendications, tout simplement c'est un mépris et c'est la baisse à l'égard des consommateurs. C'est sûr que nous allons également prendre les dispositions qui s'imposent pour respecter nos droits également.
Ces mouvements de grève surviennent 2 ans après la signature d'un pacte de stabilité sociale. Une entente censée renforcer les conventions en place et consolider la paix dans le monde du travail.
Selon l'universitaire Brahima Mamadou Kone, docteur en sciences politiques, cette recrudescence des grèves remet en question le pacte de stabilité sociale. Il recommande le dialogue entre les parties concernées afin d'éviter la répétition des grèves en cette période difficile. Il est joint au téléphone par Moussa Ag Mahaha.
Les syndicats doivent revoir un peu leur stratégie. Vous avez des responsables de syndicats qui n'ont aucune doctrine du syndicalisme. Vous savez, l'hôpital Gabriel Touré, l'hôpital du Congé, l'hôpital du Mali sont des hôpitaux urgentistes de troisième génération. Je pense qu'on aurait pu mobiliser les moyens traditionnels de négociation et de dialogue pour trouver un consensus. Pour ce qui concerne le personnel des banques et établissements financiers, aller en grève dans cette période de récession économique aussi une sorte de pénaliser les populations. Ça remet fondamentalement en cause le pacte de stabilité sociale qui a été signé par les organisations sociales des travailleurs du Mali. Donc on ne fait pas pression à la justice par rapport à l'obtention de la libération de quelqu'un, mais il faut négocier.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Autre actualité de cette édition, les déplacés de Fatakara dans le cercle de Goundam, région de Tombouctou, ne sont toujours pas retournés dans leur village. Cela malgré les actions de sécurisation permanente dans la zone. Estimées à plusieurs centaines, ces populations ont quitté leur localité sous la menace des hommes armés. Selon les autorités locales, des organisations humanitaires sont toujours à pied d'œuvre pour apporter de l'assistance à ces déplacés. Le point avec Moussa Ag Mahaha.
C'est dans la ville de Gundam que les déplacés de Fatakara ont trouvé refuge. Sur place, ils continuent de recevoir de l'aide des organisations humanitaires. Mais leur plus grand souhait est de retourner dans leur localité, affirme Cheikh Boubacar Doukouré, maire de la commune de Télé. Il ajoute que malgré les opérations de sécurisation dans la zone, ces déplacés sont toujours dans la peur.
De temps en temps, ils se rendent dans le village, soit pour abreuver les animaux, soit pour rapporter un peu de nourriture. Le problème est qu'ils sont dans des conditions de psychose très très difficiles. Même aujourd'hui, il y a une action humanitaire de l'UNICEF sur le terrain. Le CICR, tout le monde s'est impliqué.
De propos corroborés par Abdoulaye Yattara, porte-parole des déplacés. De son point de vue, la meilleure des assistances aujourd'hui reste de trouver la solution idéale leur permettant de retourner dans leur localité et reprendre leurs activités.
Nous sommes vraiment fatigués. Nous nous sommes déplacés pour venir ici parce qu'on n'avait pas le choix. Nous souhaitons aujourd'hui retourner chez nous pour reprendre nos activités. C'est vrai que nous recevons de l'aide, mais rien de tout cela ne peut remplacer le retour chez soi.
Il faut rappeler que c'est environ 700 familles qui souhaitent retourner dans cette localité avant le début des travaux champêtres qui sont prévus dans un mois.
De Gundam cap sur Boni, après la levée de l'embargo contre la ville de Boni dans la région de Douanza, des partis politiques se réjouissent de cette action. Ils l'ont fait savoir dans des communiqués publiés cette semaine. Ils appellent les autorités à privilégier le dialogue pour résoudre la crise sécuritaire qui touche le pays. Plus de détails avec Assetou Kanté.
Le parti ADEMO-PASJ a exprimé sa grande satisfaction suite à la levée du blocus contre Boni et à l'ouverture de l'axe Sévaré-Gao. Dans un communiqué, il a félicité tous les médiateurs ayant permis la libération de la ville de Boni et de ses habitants. Cependant, le parti exhorte les autorités à apporter une assistance aux populations pour relancer leurs activités. Le Bureau politique national du Rassemblement pour le Mali, RPM, a également exprimé son soulagement pour les habitants de Boni. Après avoir salué le succès de différentes médiations, ses responsables demandent aux autorités de s'inspirer du modèle de gestion de la crise de Boni pour renforcer le dispositif sécuritaire et maintenir un climat de dialogue entre les acteurs de la paix dans toutes les zones concernées du pays. Dans une note publiée sur sa page Facebook, le président d'honneur du parti Yelema Moussa Mara a félicité lui aussi les médiateurs civils ainsi que toutes les personnes qui ont donné leur feu vert au dialogue. Il a souligné que cette action montre que le Mali a les ressources pour mettre fin pacifiquement à nos conflits.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Au Mali, les cheveux des nouveau-nés sont au cœur de diverses croyances. La tradition les conserve pour des raisons mystiques, tandis que la religion préconise de les jeter après le rasage lors du baptême. Pour mieux comprendre ce sujet, notre reporter Kouma Finkeïta a rencontré des spécialistes. Suivons ensemble son reportage.
À Bamako, les mamans ont des opinions variées sur le sujet. Certaines femmes disent comprendre l'origine spirituelle de cette croyance, tandis que d'autres n'en ont aucune idée.
Après le baptême de mon bébé, j'ai confié la gestion de ses cheveux à mon mari. Dans mon village, ce sont les femmes âgées qui s'en occupent. J'ai remarqué que d'autres conservent les cheveux du nouveau-né. J'ai fait pareil sans vraiment comprendre pourquoi.
Les premiers cheveux représentent les premiers sacrifices de l'enfant. Si on n'a pas les moyens de faire ce sacrifice, il est conseillé de bien les garder.
Yacouba Dogoni, sociologue, explique « Les premiers cheveux d'un enfant sont sacrés. Ils sont souvent ciblés pour nuire à l'enfant, ce qui explique le mystère qui les entoure. » Les sociologues ajoutent que l'avenir de l'enfant est étroitement lié à ses cheveux.
Vous savez, les cheveux, c'est des formes, c'est des lignes qui apparaissent au niveau même des cheveux de l'enfant. Quand les lignes sont d'une trop forte, on peut interpréter facilement l'avenir de l'enfant. La tête est rasée en fonction de ces lignes. Voilà, destiné à être riche et tout ça. Donc, on fait des interprétations par rapport à ça.
Dans la religion musulmane, les premiers cheveux d'un enfant n'ont pas de caractère sacré. Selon Sadibou Koulibaly, imam Akaï, on les pèse généralement pour faire des sacrifices en faveur du bien-être de l'enfant. Ensuite, on s'en débrasse.
L'islam recommande de raser la tête des nouveaux-nés, garçons et filles. Les cheveux sont pesés et leur équivalent en or est donné à nous mondes, selon les moyens des parents.
Chez les chrétiens protestants, les cheveux d'un bébé bébés n'ont pas de signification particulière. Conserver ses cheveux pour d'autres usages va à l'encontre des principes de l'Église. C'est ce qu'affirme Polycarpe Diarra, pasteur à Tominia.
Les cheveux, c'est une partie de l'enfant que Dieu a donné. On ne se sert pas, en tout cas, d'une partie de ces dons de Dieu qui sont les cheveux pour en faire d'autres usages.
Malgré les avis divergents de la religion et des coutumes sur cette question, de nombreux citoyens restent fidèles à cette pratique. Ils la considèrent comme une part essentielle de leur identité culturelle.
Nous recevons à présent Sekou Gadjigo pour nous introduire le Grand Dialogue. Bonsoir Sekou, de quoi parle le Grand Dialogue de ce soir ?
Bonsoir Juliette. Les enjeux de la relecture de la charte des partis politiques, c'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Pour en parler, nous recevons Évariste Fousséni Camara, secrétaire général adjoint du RPM, Dora Cheikh, secrétaire à l'organisation du SADI, et Madame Samake Fatoumata Traoré, experte en genre et gouvernance.
Merci et bon débat. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le magazine Tous les enfants s'intéresse aujourd'hui à l'autisme qui touche 1200 enfants dans la capitale. L'association des enfants autistes brosse un tableau sombre de la prise en charge à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme ce 2 avril 2025. Nous en savons plus avec Imirana Kilumaiga.
J'ai une fille de 10 ans, elle est autiste. Je remarquais son autisme depuis à l'âge de 1 an, parce que je commençais depuis à partir de 1 an. On sent que les enfants peuvent dire « Maman, papa, tu l'appelles », elle ne fait pas de signes.
C'est le témoignage de Mme Nyangadou Safiatou Nyangadou, mère d'un enfant autiste de 10 ans. Selon elle, les difficultés de communication de son enfant ont été des moments stressants pour elle. Elle mentionne aussi qu'il a fallu plusieurs consultations avant qu'on diagnostique la maladie chez son enfant en Tunisie.
Elle peut commencer ses crises, si elle s'énerve, elle peut commencer à crier, elle peut passer pendant une heure de temps, elle est en train de crier. Je ne sais pas, il y a des fois, je m'assois, je pleure, parce que je n'arrive pas à comprendre, parce qu'elle ne peut pas m'exprimer, même si elle a mal, elle ne peut pas dire « Maman, j'ai mal quelque part », elle ne peut pas me dire « Si j'ai faim », parce que moi, elle ne parle pas.
Si Mme Nyangadou a détecté l'autisme de son enfant à l'âge d'un an, Mme Diko Mariam Issa Diallo indique un diagnostic tardif de la maladie, car son enfant avait un développement normal. Elle décrit des troubles poignants provoqués par la maladie.
Donc c'est un enfant qui avait commencé à dire ses petits mots. 2 ans et demi, elle appelait les prénoms des gens. Mais à 3 ans, tout s'est arrêté. C'est là qu'elle a commencé à... Elle ne s'intéressait à personne. Elle évitait les gens. Elle s'asseyait seule dans son coin. L'enfant ne restait pas tranquille. Il bouge tout le temps. Il saute, ça monte, ça descend, ça court, ça casse tout. C'est des enfants aussi qui n'ont pas la notion de danger. Ils ne savent pas se mettre en sécurité. Même aujourd'hui, elle a 5 ans. Si elle sort dans la rue, elle se perd. Elle n'a pas de repère.
Ces troubles de comportement suscitent le rejet et la discrimination des autistes dans la société et dans les établissements scolaires. Madame Koïta Aminata Camara est la directrice du centre Sésame. Ce centre accueille au moins 25 enfants autistes.
Vu leur état, ils ne sont pas concentrés, ils ne s'assoient pas. Certains passent leur journée à crier, certains passent leur journée à courir. C'est la grande difficulté qu'on a.
La prise en charge de l'autisme s'effectue de façon pluridisciplinaire, d'où l'intervention des orthophonistes, psychiatres et psychologues. Demba Traoré, orthophoniste, nous explique le rôle de l'orthophonie dans cette prise en charge.
Après l'évaluation, il propose un diagnostic thérapeutique pour permettre de donner une prise en charge de qualité par rapport au langage et à la communication de cet enfant autiste.
S'occuper d'un autiste nécessite un besoin d'investissement humain, émotionnel et financier, note Dr Joseph Traoré, psychiatre à l'hôpital du Point G.
Il y a l'incompréhension. Si on ne sait pas de quoi il s'agit, ça va être extrêmement difficile. Avant que les parents ne comprennent exactement que c'est un problème, une maladie en tant que telle, les gens vont penser à beaucoup d'autres choses. Les démons, les possessions, on pense que l'enfant a été échangé, on pense que l'enfant va porter malheur à la famille.
Bandjougou Gueye est le président de l'association des enfants autistes Jigia. Il invite l'État à subventionner la prise en charge de l'autisme au Mali.
Il peut nous aider en aide pour que ces enfants-là puissent avoir leur autonomie, qui subventionne l'autisme parce que la prise en charge coûte cher, les médicaments coûtent cher. Un orthophoniste faut 11 000, 13 000 par heure. Un psychologue, 10 000 par heure, 4 séances par semaine, c'est trop. Donc, s'il peut s'assurer que ces choses peuvent être ramenées jusqu'à 2 000 francs, ça va nous faire plaisir.
Afin de mieux accompagner les enfants autistes, les acteurs sollicitent une implication familiale et de la communauté.